France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Qu'avons-nous retiré de l'essor des récits de transfuges et de transclasses qui ont recouvert les étals des librairies et les pages des journaux il y a quelques années et même aujourd'hui encore, parfois critiqués pour leur redondance et leur ambiguïté par rapport à la méritocratie qui stipule que le talent suffit à monter dans l'échelle sociale, ces récits ont remis au goût du jour la réflexion sur les classes sociales. Après le temps de la théorisation, puis celui des récits personnels, le temps de la réflexion collective est venu. Que font les transclasses à la hiérarchie sociale? Les transclasses peuvent-ils être des maillons essentiels de l'émancipation collective? Une invitée ce soir pour nous éclairer, Chantal Jacquet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, professeur émérite à Panthéon-Sorbonne. Je rappelle le titre de cet ouvrage que vous signez au PUF, les presses universitaires de France, Révolution transclasse, une nouvelle théorie de l'émancipation. Merci d'être venu ce soir dans Question du soir.
Moi, quand je parle des classes moyennes, des ouvriers, je sais ce que c'est, j'en viens. Je parle pas de quelque chose que j'aurais appris dans des livres.
Bon, c'est très émouvant pour moi. Mon père était un paysan, éleveur. Éleveur, tout petit éleveur. On avait une ou deux juments.
J'ai travaillé à côté de mes études depuis toujours. Moi, depuis l'âge de 15 ans, 16 ans, j'ai travaillé non-stop à ce jour. Ça m'a permis aussi de financer mes études, aussi d'aider ma famille, mais c'est pas du misérabilisme ce que je vous dis. C'est la situation de tellement de Marocains qui vivent en France, ou de franco-marocains.
Ma maman est femme de ménage. Elle doit partir en retraite là, au mois de juillet prochain, à plus de 67 ans, parce que sinon, elle n'avait pas de quoi vivre.
Parce que je sais d'où je viens, je n'oublierai jamais pour qui l'on se bat. Parce que je suis né en Seine-Saint-Denis et que j'y ai grandi, j'ai vu ces réalités que les grandes écoles ne feront jamais toucher du doigt. Ces réalités qu'on ne vit que dans la vraie vie lorsque l'on vient de l'étage le plus bas.
Vous avez reconnu toutes ces voix, Chantal Jacquet, Anne Hidalgo, François Bayrou, Rachida Dati, Gérald Darmanin et Jordan Bardella. On aurait pu prendre bien d'autres exemples. Pourquoi les responsables politiques, d'une façon générale, sans mobiliser directement la notion de transclasse ou de transfuge de classe, en tout cas mobilisent cet imaginaire d'une personne qui a traversé les classes sociales dans le temps?
Alors très souvent, l'évocation des passages d'une classe sociale à l'autre est destinée à mettre en avant la mobilité qui traverse les sociétés. En réalité, elle donne de l'espoir à ceux qui n'en ont pas de changer leur situation. Et donc, politiquement, il peut y avoir un gain à mobiliser ces parcours de transclasse. Mais la vraie question, c'est de savoir ce que ça change sur le fond. Est-ce qu'il ne s'agit pas simplement d'un changement cosmétique qui fait qu'on accepte un ordre social parce qu'il donne l'impression d'être mobile? Mais en réalité, c'est une mobilité provisoire au service d'un immobilisme. Voilà la vraie question.
Ce qui est troublant par ailleurs, c'est que souvent, ces trajectoires sont tordues. Hein, parmi les responsables politiques qu'on a entendus, certains disent « j'ai grandi en banlieue ». L'environnement objectif dans lequel ils ont fait une partie de leur enfance ou de leur adolescence n'était pas si modeste que cela parfois. Pourquoi tordre justement sa vie réelle, objective ?
Alors, il y a la volonté parfois de se parer des plumes du paon, puisque on va justement montrer qu'on a d'autant plus de mérite, de qualité personnelle, que le coefficient d'adversité au départ était grand. En réalité, c'est encore une forme d'illusion, puisque ces parcours sont autorisés aussi par des institutions, par des bourses, par des systèmes d'aide. Ils sont autorisés aussi par la famille qui peut propulser. Donc ce ne sont pas des parcours personnels, ce sont toujours des productions collectives. Mais la mise en scène est très souvent finalement individualisée. Au fond, on présente le parcours comme une forme d'œuvre d'art en oubliant tout l'échafaudage qui a permis de le construire. Donc c'est un petit peu un leurre. Hein, et c'est pourquoi la vraie question qu'il faut se poser, c'est non pas celle du passage, mais quelle position on occupe ensuite? Qu'est-ce qu'on fait de ce passage et qu'est-ce qu'on fait surtout de ceux qu'on a laissés derrière nous? Parce que la question qui se pose, c'est celle de la justice. Ce n'est pas parce que un individu ou même une centaine d'individus ont pu échapper à un couperet social, se sortir de leur misère, que du même coup, ça change fondamentalement l'ordre social. Et c'est pourquoi la question qui se pose à tous les transclasses, quels qu'ils soient, c'est que faites-vous de ce passage et surtout, qu'est-ce que la société fait de ces passages? Est-ce qu'elle s'en sert comme d'une espèce d'alibi pour conforter une forme d'immobilisme général? Ou est-ce qu'elle essaye de comprendre qu'au fond, l'essentiel, c'est peut-être de se poser la question de savoir comment abolir les classes sociales, comment permettre finalement que chacun puisse avoir une vie digne, pas seulement d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue culturel, avoir un réseau de relations riche et pouvoir avoir une vie digne d'être vécue.
Et il est fondamental, Chantal Jacquet, ce lien que vous établissez entre ces trajectoires individuelles de transclasse d'un côté, l'émancipation collective de l'autre. On y reviendra, mais entamons cette discussion, si vous le voulez bien, par des définitions. Transclasse, transfuge de classe, quelle différence?
Alors, le concept de transfuge de classe, c'est un concept qui était d'abord un concept sociologique, mais qui désignait les gens qui quittent leur classe sociale, mais avec toujours cette idée d'une fuite. Un transfuge, c'est celui qui a fui, et ça s'accompagne d'une problématique, je qualifierais une problématique presque axiologique de jugement de valeur. Est-ce que c'est une désertion, une trahison? Donc ce concept, pour moi, il est plutôt idéologique, et c'est la raison pour laquelle, dans mon premier livre en 2014, j'ai plutôt mis l'accent sur la notion de transclasse. J'ai forgé ce néologisme pour désigner les passages d'une classe à l'autre sans jugement de valeur, parce que le fait de changer de classe sociale, c'est pas nécessairement une fuite. Ça peut être aussi une propulsion par la famille. Ça peut être une extraction de la classe dominante qui a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Donc, la fuite, c'est une possibilité, hein, quand on ne peut plus supporter un milieu, quand on n'y a pas sa place. Mais c'est pas le seul mode de passage. Et par ailleurs, alors, j'entends par transclasse, les individus ou les groupes d'individus qui connaissent un passage, hein, qui une traversée des classes, dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire
aussi pas nécessairement bien, du point de vue ascendant.
Non, et je récuse les notions d'ascension, de déclassement, parce que la question qu'on peut se poser, une fois que ce passage est effectué, est-ce qu'au fond, ce qu'on appelle une ascension sociale nous a vraiment élevés, hein? On a peut-être plus d'argent, mais est-ce que
moralement, vous voulez dire?
Moralement, éthiquement, est-ce que au fond, ça a été une forme d'ouverture, ou est-ce que c'est pas une forme de piège? La question mérite d'être posée. Inversement, ce qu'on appelle le déclassement, ça peut être parfois aussi l'occasion de sortir d'un milieu étroit, de l'entre-soi, et donc de s'ouvrir à une autre réalité. C'est pourquoi je pense qu'il faut décorréler l'idée d'un passage d'une classe à l'autre avec celle d'ascension ou de déclassement, et ne pas porter de jugement de valeur, parce qu'au bout du compte, c'est ce qu'on aura fait de ce passage qui nous permettra de dire que ce passage a été profitable pas seulement à soi mais à la société, ou au contraire, il aurait été un frein finalement à une émancipation réelle.
Comment expliquez-vous que la notion elle-même se soit en 15 ans, en une quinzaine d'années à peu près, disons, se soit répandue si rapidement dans la société française, dans le domaine politique, on en a parlé, dans le champ littéraire également, dans le champ artistique d'une façon générale, cette notion-là, que vient-elle rencontrer, percuter, accueillir peut-être aussi au sein de la société française?
Alors d'abord, le fait d'avoir réfléchi sur les passages d'une classe sociale à l'autre, c'est-à-dire ne pas s'être enfermé simplement dans la notion de reproduction, mais d'avoir pensé une non-reproduction, ça rendait visible ce qui était invisible, et donc ça lui donnait finalement un droit de cité, et ça encourageait aussi la prise de parole, ceux qui restaient dans l'ombre, ou ceux qui avaient l'impression d'avoir des parcours strictement personnels, ont pris conscience que ils n'étaient pas seuls, qu'il y avait une pluralité de discours, une pluralité de voix, donc ça encourageait cette prise de parole.
La notion a permis, je me permets de vous couper, pardonnez-moi, la notion donc a permis de créer du commun entre des personnes qui étaient peut-être éparpillées auparavant, qui ne réalisaient pas qu'elles avaient des trajectoires similaires?
Effectivement, parce que très souvent, comme ces trajectoires sont relativement rares, chacun les vivaient de manière isolée. Bon, il y avait quelques transclasses célèbres qui avaient pris la plume, mais le fait d'analyser les causes de ces parcours, les configurations qui les rendent possibles, et les effets aussi, la difficulté de se positionner en changeant de place, l'identité un peu troublée, la question de savoir si on reste fidèle à son milieu ou si on le renie, ces questions-là sont devenues centrales. Et puis, au-delà du fait que lorsque l'on produit des concepts qui aident aux gens à prendre conscience d'eux-mêmes et donc à prendre la parole, il y a aussi, d'un point de vue politique, le fait que cette question-là est apparu crucial à un moment donné. Et pour moi, c'est aussi parce que on est dans une société immobiliste, des sociétés où il n'y a plus de projet politique commun. Mmh. Et donc, ces aventures individuelles ont pris un peu le relais, donné de l'espoir peut-être, mais aussi, elles ont permis de montrer qu'il y avait malgré tout du mouvement, qu'il y avait malgré tout du changement, alors qu'en réalité, peut-être, rien ne change. Je crois que ça a correspondu aussi à un moment où, finalement, il y a une sorte de désaffection vis-à-vis des grands projets politiques, une sorte de désespérance et donc un repli sur l'individualisme aussi, d'une certaine façon.
Existe-t-il, Chantal Jacquet, une forme, même éloignée, mais une forme tout de même de conscience de classe entre les transclasses ? La question sous-jacente, c'est quoi de commun entre Bernard Tapie et Pierre Bourdieu ?
La question se pose effectivement de savoir ce que les transclasses font de leur propre histoire, c'est-à-dire quelle est la conscience de classe qu'ils ont, et par rapport à leur origine, et par rapport à leur positionnement. Or, certains peuvent très bien faire cette traversée sans avoir aucune démarche réflexive. Donc, il ne s'agit pas d'idéaliser les transclasses et de dire qu'ils auraient une lucidité supérieure aux autres. Ils peuvent avoir une conscience de classe plus aiguë parce que, ayant traversé les classes, ils voient comment elles sont fabriquées. Ils voient que ce ne sont pas des états naturels. Alors que quand on a toujours vécu dans une classe, on pense que, finalement, il en est toujours ainsi et que c'est une qualité que l'on possède presque de façon innée.
Mais ça demande tout de même, là aussi pardonnez-moi de vous couper, mais ça demande tout de même une forme de réflexivité sur son propre parcours, sa propre trajectoire pour réaliser qu'on a traversé, malgré soi ou non, des mondes, des univers, des classes différents.
Et effectivement, et cette réflexivité-là, elle ne peut pas émaner seulement d'une méditation personnelle, et c'est la raison pour laquelle une conscience de classe ne peut être que collective, elle ne peut se former qu'à travers l'échange et discussion, et je crois que peu à peu, la multiplicité des récits, quelle que soit leur différence de tonalité, amène à se demander, au fond, est-ce qu'il y a une conscience de classe commune possible ou pas, à travers ces parcours. Et la vraie question, c'est celle-là, c'est-à-dire comment on se positionne. Donc le passage, c'est une chose, il peut permettre à titre individuel une amélioration de la situation, mais la vraie question, c'est est-ce que ce passage, on se le réserve à soi-même, est-ce que ce passage globalement change quelque chose ou non, hein, et comment on se positionne vis-à-vis de ceux qui restent dans une situation extrêmement précaire.
Je voudrais vous faire entendre la voix du sociologue Marwan Mohamed. Il s'exprime sur son parcours de transclasse. Il était l'invité des Matins de France Culture de Guillaume Herner le 8 janvier dernier.
La notion de transfuge de classe, je pense qu'elle traduit pas du tout le parcours que j'ai fait. Un transfuge, il quitte sa classe. C'est pas en tout cas comme ça que je me définis. Je reste très ancré là où j'ai grandi. Je reste très ancré auprès des miens. Donc c'est pas un parcours de transfuge. Bien au contraire. C'est plutôt un parcours ça m'intéressait de le publier parce que justement, c'est loin d'être un parcours individuel. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu mettre en avant. Beaucoup de parcours sociaux sont construits de la même manière. C'est des parcours collectifs, c'est-à-dire que si j'ai pu faire, si j'ai pu avancer, c'est grâce, non pas au hasard, mais à des rencontres, c'est grâce aussi à des dispositifs de solidarité, c'est grâce à des moments de vie que j'ai interprétés comme des petites ouvertures que j'ai su saisir. Tout ça est arrimé à une trajectoire qui est progressive, qui se fait par étapes, et chaque étape a son importance.
Il dit beaucoup de choses très intéressantes, Marwan Mohamed. Je voudrais qu'on commence par la première partie de son propos, lorsqu'il dit qu'il n'est pas un transfuge de classe parce qu'il demeure aujourd'hui ancré peut-être dans sa réalité d'origine. Néanmoins, je ne peux m'empêcher de penser qu'il est au micro de France Culture et donc peut-être qu'il y a un chemin parcouru depuis justement son milieu d'enfance. Comment aborder ce rapprochement, cette notion-là de transfuge et lui, comme il l'aborde ?
Alors, je crois qu'il faut faire une différence entre précisément le passage, le changement qui s'est produit et qui est indéniable, même s'il ne s'agit pas du tout d'adopter, par exemple, les codes ou les postures de la classe dominante, mais il y a une amélioration économique qu'on ne peut pas nier, peut-être une ouverture culturelle, un réseau de relations qui a changé. Donc ça, c'est indéniable, même si on peut se sentir proche de la classe d'origine, nier le fait qu'il y ait eu des modifications, c'est aussi une violence vis-à-vis de ceux qui sont restés sur place et qui voient bien que ces modifications ont existé. Donc il faut distinguer ce changement introduit par le passage avec la position. Et la position, elle peut rester la même. Avec la conscience de classe, on peut sentir qu'on défend toujours les intérêts de la classe dominée, tout en reconnaissant que on n'a pas on partage plus exactement la même condition du point de vue économique et culturel. Donc, c'est pour ça que pour moi, la vraie question, c'est de savoir, c'est pas tellement la question d'intégrer ou non la classe dominante, ça n'a pas forcément d'intérêt, parce qu'il y a aussi une aliénation dans la classe dominante. La vraie question, c'est quelle position on adopte, et en reconnaissant honnêtement qu'on a malgré tout changé dans le passage.
Sur le dernier segment des propos de Marwan Mohamed, là aussi extrêmement intéressant, sur ce lien entre trajectoire individuelle, la sienne, et l'émancipation collective. Comment est-ce que vous analysez ce rapprochement, ce lien tissé entre les deux problématiques ?
Mais d'abord, par différence avec l'idée de des transfuges de classe qui se fera à la force du poignet, des self-made men, etc. De toute façon, dès le départ, pour moi, un transclasse, ça n'est jamais une aventure solitaire. Ce qui fait que, dans des conditions extrêmement difficiles, une métamorphose se produit, c'est le fruit de ce que j'appelle une complexion, c'est-à-dire toute une série de déterminations et de facteurs qui sont des facteurs politiques, sociaux, des facteurs économiques, familiaux, la place dans la patrie, l'orientation sexuelle, l'immigration. Donc, il y a une imbrication de facteurs qui fait que un transclasse est toujours le produit du collectif. Et du même coup, s'il prend conscience du fait qu'il ne s'est pas fait tout seul, qu'on lui a fait la courte échelle, eh bien, il peut avoir une ouverture sur cette perspective qui est celle de la transformation collective et plus seulement individuelle. C'est la raison pour laquelle, à la fin de mon premier livre, je disais que le problème, c'est pas de passer les barrières de classe en solo, mais de les abolir pour tous. Et je crois que si on a déjà conscience dans un parcours de transclasse individuelle que, justement, c'est pas un parcours individuel, mais trans-individuel, c'est-à-dire ce sont les autres qui nous ont aidés à faire ce parcours.
Et d'autres institutions, pas uniquement des individus.
D'autres institutions, bien évidemment. Et donc, on a déjà une conscience de la dimension collective. Alors, après, il faut faire un pas de plus, parce que ça ne suffit pas. Changer individuellement de classe, ou même un groupe qui changerait de classe, ou qui améliorerait sa situation, une amélioration ponctuelle, mais ça ne permet pas une transformation globale pour ceux qui restent dans une situation précaire.
Alors abordons de front maintenant, Chantal Jacquet, la question du lien entre ces parcours de transfuge de classe, de transclasse, et la question de la méritocratie. Je voudrais vous faire entendre la voix de Laïla Véron, linguiste. Elle s'exprimait sur le Média Blast.
Au bout d'un moment, parlons du paradoxe. On a dit paradoxe, des récits transfuges de classe. Le paradoxe de base, c'est quand même, pour certains récits estampillés à gauche, de dire « je veux dénoncer le déterminisme social, je veux dénoncer l'illusion de la méritocratie, donc en mode « quand on veut, on peut, quand on travaille bien à l'école, ça va bien marcher ». Et je vous donne mon exemple de personne qui a réussi grâce à l'école, qui déjoue les lois sociales, qui est une exception, mais je ne veux pas être pris comme exemple de méritocratie. Au bout d'un moment, là, il y a un paradoxe de base. Est-ce qu'on peut vraiment dénoncer le déterminisme social en faisant le récit d'une exception sociale ?
Qu'est-ce que vous pensez, Chantal Jacquet, justement, de ce paradoxe pointé par Laïla Véron ? Est-ce que mettre la lumière continuellement sur ces parcours individuels qui, effectivement, traversent la société, est-ce que ça vient fragiliser la notion de déterminisme social ?
Ça ne fragilise pas la notion de déterminisme social dans la mesure où on peut comprendre quels sont les facteurs qui ont joué pour modifier à la marge ce déterminisme social. Mais du même coup, il ne s'agit pas du tout de se centrer finalement sur les écarts par rapport au déterminisme social, parce que la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait collectivement, et c'est pas seulement la responsabilité des transclasses, qu'est-ce qu'on fait collectivement pour déjouer ce déterminisme social ? Qu'est-ce qu'on fait pour que il n'y ait pas simplement quelques voix transclasses qui s'élèvent contre un ordre social injuste ? Et c'est pourquoi la question peut être déplacée à présent, c'est-à-dire ces récits individuels sont intéressants dans la mesure où ils nous donnent des instruments pour comprendre comment le déterminisme social se modifie à la marge, mais il faut franchir un pas de plus pour comprendre comment on peut le briser d'une certaine manière.
Ce que vous dites là, je le comprends du point de vue analytique, du point de vue aussi de la chercheuse qui travaille de manière approfondie depuis longtemps sur ce sujet, mais tout de même, dans l'imaginaire collectif, lorsqu'une myriade de récits de transclasse et de transfuges de classe apparaît, est-ce que ça ne vient pas affaiblir l'idée selon laquelle sortir de sa classe, c'est une chose difficile, s'extirper d'un déterminisme social, c'est une chose éminemment compliquée.
C'est une chose éminemment compliquée, mais ce qui est frappant, c'est l'évolution qui s'effectue, parce que il y a des transclasses qui adoptent une posture beaucoup plus collective, c'est-à-dire qui déplacent la question, et notamment par exemple l'association qui s'appelle Conscience de classe, pour montrer qu'il ne s'agit plus du tout de donner des modèles individuels à parcourir, de réussite sociale, mais de parce que ça occulte le fait que pour la plupart des gens, mais la situation ne change pas. Donc ce rêve, c'est une sorte de songe creux, hein, et c'est pourquoi il me semble nécessaire de franchir un pas de plus. C'est-à-dire que s'il y a de l'intérêt dans les récits transclasses, c'est de nous montrer comment se fabriquent les classes et donc de nous donner des instruments pour comprendre comment aussi les défaire et pour pouvoir finalement incarner un espoir collectif d'une transformation et pas simplement de changement cosmétique, puisque ça ne change rien fondamentalement, hein, à l'ordre social. C'est pas parce que vous aurez un groupe qui aura franchi les barrières sociales que ces barrières sont abolies. Et c'est la raison
pour laquelle... Ça reste des anomalies statistiques ?
Ça reste des anomalies statistiques. En France, c'est toujours 7 enfants d'ouvriers ou 7 enfants de chefs d'entreprise sur 10 qui connaissent la même trajectoire sociale que leurs parents. Donc, il y en a 3, sans doute, mais ça ne c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui restent et qui sont l'immense majorité ? Voilà pourquoi je crois que la focale, et c'est pour ça que j'ai parlé de révolution au pluriel transclasse, il s'agit de sortir de la dimension strictement individuelle pour promouvoir un espoir collectif de transformation.
Je voudrais vous faire entendre la voix du juriste Kimberley Crenshaw qui définit le concept d'intersectionnalité.
It's a concept that describes the interaction between various axes of discrimination.
C'est un concept qui décrit l'interaction entre différents axes de discrimination, comme la race, la sexualité, le statut d'immigrant ou le handicap. L'idée fondamentale est que nous ne faisons pas l'expérience de la discrimination d'abord sur un plan, puis sur un autre, et encore sur un autre, mais que bien souvent, il s'agit d'un problème interactif. Voici la réalité que décrit l'intersectionnalité. Mais le problème plus profond, c'est que beaucoup de nos pratiques, qu'il s'agisse de pratiques militantes, de politiques publiques ou même de protection juridique, ne prennent pas en compte le fait que la discrimination peut être interactive. Et cela crée un nouveau niveau de discrimination.
La juriste Kimberley Crenshaw, et je voudrais, Chantal Jacquet, vous demander comment est-ce que vous articulez cette réflexion sur les classes, sur les transclasses, avec l'autre notion d'intersectionnalité. Comment l'un et l'autre peuvent s'imbriquer, justement ?
Alors, la vraie question, quand on se pose le problème de l'émancipation, c'est de savoir comment articuler toutes les formes de discrimination ou tous les obstacles à cette libération. Et c'est la raison pour laquelle il me semble qu'il était nécessaire de repenser la manière dont les différents combats d'émancipation sont pensés les uns par rapport aux autres, et souvent de façon concurrente et parallèle. Et on parle souvent, par exemple, de convergence des luttes, mais il me semble que le problème est mal posé, parce que si on essaye de trouver une convergence des luttes, c'est qu'au départ, on les a pensées comme séparées. Et c'est pourquoi...
On les a pensées comme séparées, elles ont émergé séparément.
Elles ont émergé séparément. C'est la raison pour laquelle, si on veut penser une transformation, ce que j'appelle une mutation, un changement de forme, bien, ça ne suffit pas d'abolir les classes sociales, parce qu'une société sans classe sera sans doute moins injuste d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, mais elle ne sera pas nécessairement une société absolument de liberté si subsistent des discriminations. C'est la raison pour laquelle penser une émancipation suppose une vision holiste qui mêlent toutes les discriminations, qui les prennent en charge. Alors, j'avais trouvé très intéressante cette idée d'intersectionnalité, parce qu'au départ, elle visait justement à penser une émancipation qui inclut toutes les formes de discrimination. Alors, le problème, c'est que, comme c'est une métaphore, l'intersection, on a l'impression que les discriminations sont des lignes séparées, alors qu'en réalité, tout est donné à la fois dans un individu. On se divise pas en tranches, il n'y a pas d'un côté
la femme, etc. Ce ne sont pas des variables distinctes, en tout cas.
Voilà, ce ne sont pas elles sont consubstantielles, et c'est la raison pour laquelle... cette notion d'intersectionnalité, quand elle est mal maniée, eh bien on retient plus souvent la section que l'inter, hein, et donc chacun se positionne sur un carrefour de discrimination et laisse de côté les autres. Donc mon objectif dans ce livre Révolution transclasse, c'est de penser un transclassisme donc extra-classe, c'est-à-dire sortir des classes, mais aussi ce que j'ai appelé un transclassisme supra-classe, c'est-à-dire un mouvement de dépassement des classes, les abolir, les prendre en considération, mais qui inclut toutes les discriminations, c'est-à-dire aussi bien les discriminations genrées que racialisées, que sexuelles. Et toutes les discriminations, ça veut dire qu'en fait, il faut prendre en considération une histoire, hein, et que ces discriminations ne sont pas données une fois pour toutes, elles vont être variables dans l'histoire. Donc, à chaque génération, la tâche de mener l'enquête nécessaire pour voir comment produire une émancipation qui ne soit pas purement cosmétique ou qui ne soit réservée qu'à une partie de la population. Alors, on peut dire que c'est une amélioration si, par exemple, les femmes conquièrent des droits, mais cette conquête ne s'accompagne pas non plus des droits pour ceux qui sont dans la misère ou ceux qui subissent des persécutions religieuses, eh bien, ça ne sera pas suffisant. Donc, voilà pourquoi... il faut reprendre ce mot d'ordre qui était fondamental chez Kimberlé Crenshaw, c'est-à-dire là où elles entrent, elle parlait des femmes noires qui étaient discriminées, là où elles entrent, nous entrons tous et toutes. Donc partir de ceux qui sont les plus discriminés comme base pour pouvoir arriver à penser une émancipation pour tous.
Merci beaucoup Chantal Jacquet. Je redonne le titre de votre ouvrage, Révolution transclasse, une nouvelle théorie de l'émancipation. C'est aux presses universitaires de France. Merci également à celles et ceux qui ont fait cette émission. Bertie Bourdon, Bruno Barada, Rodi Eken, à la réalisation Fan Montet et Raphaël Rousseau ce soir à la technique.